Ivan Turgenev. Terre vierge. Traduction d'Émile Durand-Gréville. Paris, 1877. Chapitre 1er. Au printemps de 1868, vers 1 heure de l'après-midi, un jeune homme d'environ 27 ans, négligemment et même pauvrement vêtu, montait par l'escalier de service d'une maison à 5 étages, située dans la rue des Officiers, à Pétersbourg. Traînant avec bruit des galoches éculées et balançant gauchement sa lourde et lente personne, il atteignit enfin la dernière marche de l'escalier, s'arrêta devant une porte délabrée qui était restée entr'ouverte, puis, sans tirer le cordon, mais en toussant avec fracas pour annoncer sa présence, il pénétra dans une antichambre étroite et mal éclairée. « Nijedanov est-il là ? » cria-t-il d'une grosse voix de basse. « Non, c'est moi, entrez !» répondit de la pièce voisine une voix de femme assez rude aussi. « Machurina ?» demanda le nouveau venu. « Oui, et vous, Ostrodoumov ?»« Pimen Ostrodoumov, » répondit-il. Aussitôt, il se débarrassa de ses galoches, pendit à un clou son manteau râpé et entra dans la chambre d'où partait la voix de femme. C'était une pièce malpropre, au plafond bas, au mur badigeonné d'une couleur vert sale, qu'éclairaient à peine 2 petites fenêtres poussiéreuses. Elle avait pour tout mobilier un lit de fer dans un coin, une table au milieu, quelques chaises et une étagère surchargée de livres. Près de la table était assise, fumant une cigarette, une femme de 30 ans environ, nu-tête, vêtue d'une robe de laine noire. En voyant entrer Ostrodoumov, elle lui tendit silencieusement sa large main rouge. Celui-ci répondit non moins silencieusement à son étreinte, se laissa tomber sur une chaise et tira de sa poche une moitié de cigare. Machurina lui donna du feu, il alluma son cigare, et tous deux, sans échanger une parole, ni même un regard, se mirent à lancer des tourbillons de fumée bleuâtre dans l'air épais de la chambre, déjà saturé de tabac. Les deux fumeurs ne se ressemblaient point par les traits du visage. Mais entre ces deux figures ingrates, aux lèvres épaisses, aux grosses dents, au nez mal taillé, Ostrodoumov en outre était grêlé, il y avait quelque chose de commun, une expression de loyauté et d'énergie laborieuse. « Est-ce que vous avez vu Nijedanov ?» demanda enfin Ostrodoumov. « Oui, il va venir. Il est allé porter des livres à la bibliothèque. »« Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça depuis quelque temps ?» dit Ostrodoumov en se détournant pour cracher. « Il n'y a plus moyen de mettre la main sur lui. » Machurina prit un second papyrose et, l'allumant consciencieusement, « Il s'ennuie, » répondit-elle. « Il s'ennuie, » répéta Ostrodoumov d'un ton de reproche. « Quel enfantillage ! On dirait que nous n'avons rien à faire. Nous nous demandons comment nous abattrons toute cette besogne, et lui, il s'ennuie. « Y a-t-il une lettre de Moscou ?» demanda Machurina au bout d'un moment. « Oui, depuis avant-hier. »« Vous l'avez lue ?» Ostrodoumov fit un simple signe de tête affirmatif. « Et que dit-elle ? » « Il faudra bientôt partir. » Machurina retira le papyrose de sa bouche. « Pourquoi donc ? On m'avait dit que tout allait bien là-bas. »« Ça va son train, mais il y a un monsieur qui n'est pas sûr. Vous comprenez, il faut le déplacer, ou bien il faudra peut-être le supprimer tout à fait. Et puis il y a encore différentes choses. Vous aussi vous êtes convoqué. Dans la lettre ? Oui, dans la lettre. » Machurina secoua sa lourde chevelure, qui, négligemment tordue et rattachée en arrière, lui retombait sur le front et les sourcils. « Très bien, dit-elle, puisque c'est l'ordre, il n'y a pas à discuter. »« Naturellement, mais sans argent, pas moyen. Et où le trouver, l'argent ?» Machurina réfléchit. « Nijedanov doit s'en procurer, dit-elle à demi-voix, comme se parlant à elle-même. « C'est justement pour cela que je suis venue, fit observer Ostrodoumov. « Vous avez la lettre sur vous ?» lui demanda tout à coup Machurina. « Oui. Voulez-vous la lire ?»« Donnez. Au fait, non. Nous la lirons ensemble, plus tard. » « Je vous ai dit la vérité, » grommela Ostrodoumov, « n'en doutez pas. »« Eh, je sais bien. » Ils se turent de nouveau, et de nouveau les minces filets de fumée que laissaient échapper leurs lèvres silencieuses montèrent en se tordant légèrement au-dessus de leurs têtes chevelues. Un bruit de pas retentit dans l'antichambre. « Le voilà !» murmura Machourina. La porte s'entrebâilla, et une tête se glissa par l'ouverture. Mais ce n'était pas celle de Nejdanov. C'était une figure ronde, aux cheveux noirs et rudes, au front large et sillonné de rides. Ses petits cheveux bruns se mouvaient rapidement sous d'épais sourcils. Elle avait un nez en bec de canard, retroussé vers le ciel, et une petite bouche rose drôlement fendue. Cette tête regarda autour d'elle, salua, sourit, en montrant deux rangées de toutes petites dents blanches, et pénétra dans la chambre en même temps qu'un torse débile aux bras courts, aux jambes mi-bancales, mi-boiteuses. Machourina et Ostrodoumov, en l'apercevant, eurent tous deux sur le visage la même expression d'indulgent dédain, à peu près comme s'ils se fussent dit intérieurement « Ah, ce n'est que lui !» Ils ne laissèrent échapper ni un mouvement ni une parole. Du reste, le nouveau venu, loin d'être choqué de cet accueil, eut l'air d'en éprouver quelque satisfaction. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » s'écria-t-il d'une voix glapissante. « Un duo ? Pourquoi pas un trio ? Où est donc le premier ténor ? C'est de Nejdanov que vous voulez parler, monsieur Paklin ? » lui dit Ostrodoumov d'un air très sérieux. « C'est justement de lui. Oui, monsieur Ostrodoumov. » « Il rentrera probablement bientôt, monsieur Paklin. »« Enchanté de l'apprendre, monsieur Ostrodoumov. » Le petit boiteux se tourna vers Machourina, qui, d'un air renfrogné, continuait à fumer sa cigarette. « Comment vous portez-vous, très aimable ? Ah, que c'est ennuyeux ! Je ne peux jamais me rappeler votre prénom ni votre nom patronymique. » Machourina haussa les épaules. « À quoi bon vous les rappeler ? Vous connaissez mon nom de famille. » Que vous faut-il de plus ? Et pourquoi cette question ? Comment vous portez-vous ? Ne voyez-vous pas vous-même que je ne suis pas morte ? Parfaitement, parfaitement juste, s'écria Paklin, en gonflant ses narines et en remuant ses sourcils inégaux. Si vous étiez morte, votre très humble serviteur n'aurait pas l'avantage de vous voir ici et de causer avec vous. Considérez ma question comme un reste de mauvaise habitude surannée. C'est comme pour le prénom et le nom patronymique. « Voyez-vous, ça me semble drôle de dire Machourina tout court. Je sais bien que vos lettres ne sont jamais signées autrement que Bonaparte, pardon, Machourina, voulais-je dire. Mais pourtant, quand on cause... Mais qui vous a prié de causer avec moi ?» Paklin eut un petit rire nerveux, comme s'il avait avalé une gorgée de travers. « Allons, allons, ma colombe, ne vous fâchez pas. Donnez-moi votre main. Vous êtes très bonne, je le sais bien. » « Et moi non plus, je ne suis pas méchant. Allons. » Paklin tendait la main. Machourina le regarda d'un air sombre. Cependant, elle lui tendit la sienne. « Vous tenez beaucoup à connaître mon prénom, » dit-elle, sans que son visage s'éclaircît. « Eh bien, je m'appelle Fiokla. »« Et moi, Pimène, » ajouta la voix de basse d'Ostrodoumov. « Ah, c'est très instructif, très instructif. Mais alors, dites-moi donc, ô Fiokla, « Et vous, ô Pimène, dites-moi donc pourquoi vous me traitez toujours si peu amicalement, tandis que moi... » Machourina trouve, et elle n'est pas la seule de cet avis, interrompit Ostrodoumov, « que l'on ne peut pas se fier à vous, parce que vous regardez toute chose du côté risible. » Paklin tourna vivement sur ses talons. « Ah, voilà, voilà, toujours la même erreur de la part des gens qui me jugent, très honorable Pimène. D'abord, je ne ris pas toujours. » Et puis, ça ne veut rien dire, et l'on peut se fier à moi. La preuve en est, du reste, dans la confiance flatteuse qui m'a été plus d'une fois témoignée parmi les vôtres. Je suis un honnête homme, moi, très honorable Pimène. Ostrodoumov murmura quelque chose entre ses dents, et Paklin, secouant la tête, répéta, mais cette fois presque sans sourire, « Non, je ne ris pas toujours. Je ne suis pas un homme gai. Regardez-moi un peu. » Ostrodoumov leva les yeux sur lui. En effet, lorsque Paklin ne riait pas et ne parlait pas, son visage prenait aussitôt une expression de tristesse mêlée de crainte. Cette expression redevenait drôle et même maligne dès qu'il ouvrait la bouche. Ostrodoumov cependant ne dit mot. Paclin se retourna de nouveau vers Machourina. « Et les études, comment vont-elles? Faites-vous des progrès dans votre art éminemment philanthropique? Ça doit être une rude affaire que d'aider un citoyen inexpérimenté à faire sa première apparition dans le monde, hein ?»« Oh, pas du tout, à moins que le petit citoyen ne soit beaucoup plus grand que vous, » répondit Machourina en souriant d'un air satisfait. Machourina venait de recevoir le diplôme de sage-femme. 18 mois auparavant, elle avait abandonné sa famille. C'était le petit propriétaire noble du Midi de la Russie, et elle était arrivée à Pétersbourg avec 6 roubles dans sa poche. Entrée à l'école d'obstétrique, elle avait conquis par un travail acharné le grade qu'elle convoitait. Elle était fille et très chaste. Chose peu étonnante, s'écrira quelques sceptiques en se rappelant ce que nous avons dit de son extérieur. Chose étonnante et rare, nous permettrons-nous de dire à notre tour. En entendant la réponse de Machourina, Paclin se remit à rire. « Bien touché, ma chère, » s'écria-t-il. « Ah, vous êtes vive à la riposte, ça m'apprendra. Aussi, pourquoi suis-je resté si petit? Mais le maître de séant ne revient pas. Où diable s'est-il fourré ?» C'est avec intention que Paclin changeait le sujet de l'entretien. Il n'avait jamais su se résigner à sa taille microscopique, à sa chétive personne. Ses défauts physiques lui étaient d'autant plus sensibles qu'il adorait les femmes. Pour leur plaire, que n'aurait-il pas donné? Le sentiment de sa difformité le rongeait bien plus cruellement que l'humilité de sa naissance ou que la médiocrité de sa position. Le père de Paclin, simple bourgeois devenu conseiller honoraire à force de rouerie, était une espèce d'homme d'affaires que l'on consultait pour les procès, à qui l'on confiait la gestion d'un domaine, d'une maison. À ce métier, il avait amassé un petit pécule. Mais, s'étant mis à s'enivrer sur ses vieux jours, il n'avait rien laissé après lui. Le jeune Paclin se nommait Silla Samsonitch, c'est-à-dire Force, fils de Samson, ce qu'il jugeait être une moquerie du sort. Il fit son éducation dans une école de commerce, où il apprit parfaitement l'allemand. Après avoir passé par diverses épreuves assez désagréables, il trouva enfin une place de 1500 roubles dans un comptoir. Avec ses maigres ressources, il subvenait non seulement à ses propres besoins, mais encore à ceux d'une tante malade et de sa sœur qui était bossue. À l'époque où se passe notre récit, il venait d'avoir 27 ans. Il avait lié connaissance avec un grand nombre d'étudiants, jeunes gens auxquels il plaisait par la hardiesse quelque peu cynique de ses propos, par la gaieté et l'aplomb de sa parole, enfin par une érudition étroite, mais incontestable et dénuée de tout pédantisme. Cela ne l'empêchait pas d'être parfois un peu malmené par eux. Un jour, par exemple, qu'il s'était mis en retard pour une réunion politique et qu'il présentait des excuses embarrassées, une voix dans un coin se mit à chanter « Notre pauvre Paclin est un foudre de guerre ». Et tout le monde éclata de rire. Paclin finit par rire comme les autres, quoique la colère le mordit au cœur. « Le gredin a mis le doigt sur la plaie », se dit-il en lui-même. Il avait fait connaissance avec Nechtanov dans une gargote grecque où il prenait ses repas, et où il émettait des opinions très libres et très accentuées. Il prétendait que la cause première de ces tendances démocratiques était précisément cette atroce cuisine grecque qui lui irritait le foie. « Oui, où diable s'est fourré le maître de séant ?» répéta Paclin. « J'ai remarqué que depuis quelque temps, il n'est pas dans son assiette. Serait-il amoureux ?» Machourina fronça le sourcil. Il est allé à la bibliothèque pour y chercher des livres. Quant à être amoureux, il a d'autres chiens à fouetter. Et d'ailleurs, de qui le serait-il? De vous, faillit répondre Paclin. Mais il se borna à dire, j'ai envie de le voir pour causer avec lui de choses graves. De quelles choses? Fit Ostroloumov. Notre affaire? Peut-être de la vôtre. Je veux dire de la nôtre à tous. Ostroloumov poussa un « hum ». Il éprouvait une certaine méfiance, mais aussitôt il se dit « Après tout, qui sait? Cette anguille se glisse partout. » « Le voilà qui arrive enfin, » dit tout à coup Machourina, et, dans ses petits yeux cernés, tournés vers la porte de l'antichambre, passa je ne sais quoi de chaud et de tendre, comme une petite tache lumineuse. La porte s'ouvrit, et cette fois on vit entrer un jeune homme de 23 ans, coiffé d'une casquette, un paquet de livres sous le bras. c'était Nechtanov lui-même. Chapitre 2. En apercevant les trois visiteurs, Nechtanov s'arrêta sur le seuil, les enveloppa d'un regard, jeta sa casquette, laissa tomber négligemment ses livres sur le plancher et, sans dire une parole, alla s'asseoir sur le pied de son lit. Son joli visage au teint blanc, que la couleur sombre de son abondante chevelure d'un brun roux faisait paraître plus blanc encore, exprimait le mécontentement et le dépit. Machourina se détourna légèrement en se mordant la lèvre. Ostroumov grommela « Enfin !» Paklin se rapprocha de Nechtanov. « Qu'est-ce qui t'arrive, Alexis Dmitritch, Hamlet russe? Quelqu'un t'a-t-il mis en colère, ou bien es-tu tombé comme ça tout seul dans la mélancolie ?»« Laisse-moi la paix, Méphistophélès, » répondit Nechtanov avec impatience. « Je n'ai pas le temps d'aiguiser avec toi des platitudes. » Paklin se mit à rire. « Tu ne t'exprimes pas correctement, mon cher. Ce qui est aigu n'est pas plat. Ce qui est plat ne peut pas être aigu. C'est bon, tu as de l'esprit, nous le savons. » « Et toi, tu as les nerfs détraqués, » répliqua lentement Paklin. « Est-ce que vraiment il te serait arrivé quelque chose d'extraordinaire ?»« Il ne m'est rien arrivé d'extraordinaire. Il m'est arrivé qu'on ne peut plus mettre le nez dehors, dans cette ignoble ville, sans se heurter à quelque bassesse, à quelque sottise, à quelque absurde injustice, à quelque stupidité. Il n'y a plus moyen de vivre ici. » Voilà pourquoi tu as fait annoncer dans les journaux que tu cherches une place et que tu consentirais à quitter Pétersbourg, grommela encore Ostroumov. Certainement, je partirais et avec bonheur, si seulement je trouvais quelqu'un d'assez bête pour me proposer une place. Avant tout, il faut remplir son devoir ici, dit Machourina d'un ton significatif, mais sans cesser de détourner les yeux. C'est-à-dire, demanda Nechtanov, en faisant volte-face, Machourina serra les lèvres. « Ostroumov vous l'expliquera, » dit-elle enfin. Nechtanov se tourna vers Ostroumov, mais celui-ci toussa et dit seulement « Plus tard. »« Voyons, sérieusement, » reprit Paklin, « est-ce que tu aurais appris quelque chose de désagréable ?» Nechtanov bondit de son lit comme poussé par un ressort. « Eh, quel désagrément te faut-il encore ?» s'écria-t-il à tue-tête. La moitié de la Russie meurt de faim, la Gazette de Moscou triomphe, on introduit chez nous le classicisme, on interdit aux étudiants les caisses de secours, partout l'espionnage, l'oppression, la dénonciation, le mensonge et la fausseté. On ne peut plus faire un pas, et tout cela ne lui suffit plus, il lui faut encore quelques désagréments nouveaux, il me demande si je parle sérieusement. « Bassanov est arrêté, » ajouta-t-il en baissant la voix. « On vient de me le dire à la bibliothèque. » Ostroumov et Machourina levèrent la tête en même temps. « Mon cher et bon Alexis, » commença Paklin, « tu es agité, cela se comprend. Mais oublies-tu à quelle époque et dans quel pays nous vivons ? Chez nous, l'homme qui se noie doit encore fabriquer lui-même le brin de paille auquel il pourrait s'accrocher. Il s'agit bien de faire du sentiment. Vois-tu, camarade, il faut savoir regarder le diable dans le blanc des yeux et ne pas s'exaspérer comme un enfant. « Ah, je t'en prie, assez !» interrompit Nechtanov avec angoisse, les traits contractés comme sous l'action d'une douleur physique. « C'est une affaire entendue. Toi, tu es un homme énergique, tu n'as peur de rien ni de personne. »« Peur de personne, moi ?» murmura Paklin. « Voyons, voyons. » « Mais qui a pu dénoncer Bassanov ? Je n'y comprends rien. » « Un ami, ça va sans dire, » se hâta d'ajouter Paklin. « Les amis sont de première force sur ce chapitre. C'est avec eux qu'il faut tenir l'oreille au guet. Moi, par exemple, j'avais un ami, un si bon garçon. Il s'inquiétait tant de moi, de ma réputation. Un jour, il arrive chez moi. « Figurez-vous, me dit-il, quelle stupide calomnie on a répandue contre vous. On prétend que vous avez empoisonné votre oncle, que, dans une maison où l'on vous avait introduit, vous avez tourné le dos tout le temps à votre hôtesse et que vous êtes resté ainsi toute la soirée pendant que la pauvre femme pleurait de honte. Quelle stupidité ! Faut-il être idiot pour inventer des bourdes pareilles ? Eh bien, imaginez-vous que l'année suivante, m'étant brouillé avec cet ami, je reçois de lui une lettre d'adieu dans laquelle il m'écrivait vous qui avez tué votre oncle, vous qui n'avez pas eu honte d'insulter une respectable dame en lui tournant le dos, etc., etc. Voilà ce que c'est que les amis. Ostrodoumov échangea un regard avec Machourina. Alexis Dmitritch, fit-il de sa voix de basse profonde, désirant évidemment mettre fin à cette dépense de paroles inutiles. Nous avons reçu de Moscou une lettre de la part de Vassili Nikolaïevitch. Nijedanov tressaillit légèrement et baissa les yeux. « Qu'est-ce qu'il écrit ? » demanda-t-il enfin. « Elle et moi ?» Ostrodoumov indiqua sa voisine d'un mouvement de sourcil. « Nous devons partir. »« Comment ? Elle aussi est convoquée ?»«
Elle aussi. » »«
Eh bien, pourquoi tardez-vous ? » ?»«
Naturellement, faute d'argent. »
Nijedanov se leva et s'approcha de la fenêtre. « Combien vous faut-il ? »
50 roubles, pas un copec de moins. »
Nijedanov se tut un instant. « Je ne les ai pas en ce moment-ci, » murmura-t-il enfin, en tambourinant avec les doigts sur la vitre. « Mais je peux les trouver, je les trouverai. As-tu la lettre sur toi ?»«
La lettre ?
Elle, c'est-à-dire naturellement. »
« Pourquoi vous cachez-vous de moi constamment ? » s'écria Paklin.
« N'ai-je pas mérité votre confiance ? Et quand même, je ne sympathiserai pas entièrement à ce que vous projetez. Pensez-vous vraiment que je sois capable de vous trahir ou de divulguer votre secret ?»«
Sans intention, peut-être, » gronda la voix d'Ostrodoumov.
« Ni sans intention, ni avec intention. Voilà mademoiselle Machourina qui me regarde en souriant, et moi je vous dis... »
« Je ne souris pas du tout, » dit Machourina avec colère.
« Et moi je vous dis, messieurs, » continua Paklin, « que vous n'avez pas le moindre flair, que vous ne savez pas distinguer quels sont vos véritables amis. Parce qu'on rit quelquefois, vous vous imaginez qu'on n'est pas sérieux. »«
Certainement, » riposta Machourina du même ton.
« Tenez, par exemple, » reprit Paklin avec une nouvelle force, sans répondre cette fois à l'interruptrice, « vous avez besoin d'argent. »
Nijedanov en ce moment n'en a pas.
Eh bien, je peux vous en donner. »
Nijedanov quitta brusquement la fenêtre.
« Non, non, à quoi bon ? J'en trouverai. Je prendrai une avance sur ma pension. Ils me doivent quelque chose, je m'en souviens.
Mais à propos, Ostrodoumov, montre-moi la lettre. »
Ostrodoumov resta d'abord un moment immobile, puis il regarda autour de lui. Puis il se leva, se courba jusqu'à terre, releva le bas de son pantalon, retira de la tige de sa botte un morceau de papier soigneusement plié, souffla sur ce papier, on ne sait pourquoi, et le remit enfin à Nijedanov. Celui-ci, après l'avoir déplié et lu attentivement, le passa à Machourina, qui, s'étant levée de sa chaise, le lut à son tour et le rendit à Nijedanov, bien que Paklin avançât la main pour le prendre. Nijedanov haussa les épaules et tendit silencieusement la lettre à Paklin, qui, après l'avoir lue, serra les lèvres d'une façon significative et la replaça sur la table d'un air solennel, sans dire une parole. Alors Ostrodoumov la prit, alluma une grosse allumette qui répandit dans la chambre une forte odeur de soufre, et, après avoir élevé le papier au-dessus de sa tête comme pour le montrer à tous les assistants, il le brûla à la flamme de l'allumette jusqu'à la dernière bribe, sans ménager ses doigts. Puis il jeta la cendre dans le feu. Personne n'avait dit un mot, ni fait un mouvement pendant cette opération. Tous regardaient à terre. Ostrodoumov avait l'air concentré et grave. On lisait sur le visage de Nijedanov une expression presque méchante. Celui de Paklin indiquait une forte tension intérieure. Quant à Machourina, elle semblait assister à une cérémonie religieuse. 2 minutes s'écoulèrent ainsi, puis tous se sentirent un peu embarrassés. Ce fut Paklin qui, le premier, jugea à propos de rompre le silence. « Eh bien, dit-il, accepte-t-on, oui ou non, mon offre sur l'autel de la patrie ? Puis-je apporter, sinon 50 roubles, au moins 25 ou 30, pour l'œuvre commune ?» Nijedanov éclata tout d'un coup. La mauvaise humeur qui bouillait en lui, et que la solennelle crémation de la lettre n'avait pas apaisée, n'attendait qu'une occasion pour se faire jour. « Je t'ai déjà dit que c'est inutile, entends-tu ? Inutile ! Je ne permettrai pas, je ne prendrai pas cet argent. J'en trouverai, et tout de suite. Je n'ai besoin du secours de personne. »«
Allons, camarade, » dit Paklin, « je le vois, tu es un révolutionnaire, mais tu n'es pas un démocrate. » Dis tout de suite que je suis un aristocrate.
Eh bien, certainement, tu es un aristocrate, jusqu'à un certain point.
Nechtanov eut un rire forcé.
Tu fais allusion à ma naissance irrégulière.
Tu prends une peine inutile, mon cher. Je n'ai pas besoin de toi pour m'en souvenir.
Paklin frappa dans ses mains.
Voyons, Alexis, quelle mouche te pique! Comment peux-tu prendre ainsi mes paroles?
Je ne te reconnais pas aujourd'hui.
Nechtanov fit de la tête et des épaules un mouvement d'impatience.
L'arrestation de Bassanov t'a bouleversé.
Mais aussi, il se conduisait si imprudemment.
Il disait tout haut ses opinions, fit observer Machurina d'un air sombre. Ce n'est pas à nous de le blâmer.
Fort bien, mais il aurait pu songer aux autres, qu'il compromet peut-être maintenant.
Pourquoi pensez-vous cela de lui? Mugit à son tour Ostrodoumov. Bassanov est un caractère énergique. Il ne livrera personne. Et quant à la prudence, voulez-vous que je vous dise, il n'est pas donné à tout le monde d'être prudent, monsieur Paklin.
Paklin, blessé, voulut répondre. Mais Nechtanov lui coupa la parole.
Messieurs, s'écria-t-il, croyez-moi, laissons en paix la politique pour quelque temps.
Il y eut un silence. Ce fut de nouveau Paklin qui ranima la conversation.
J'ai rencontré ce matin Skoropikine, le grand critique esthétique de toutes les Russies. Quel personnage insupportable, toujours bouillonnant, écumant, pétillant. On dirait une bouteille de mauvais Kislytchi.
Le garçon qui l'a servi se hâte de la boucher avec son doigt en guise de bouchon.
Un grain gonflé s'est arrêté dans le goulot. Tout cela crache et siffle, et quand l'écume est partie, il reste au fond de la bouteille quelques gouttes d'un affreux liquide qui n'étanche pas la soif et qui, par-dessus le marché, donne la colique. Ce Skoropikine est un individu pernicieux pour les jeunes gens.
L'assimilation faite par Paklin, si parfaitement exacte qu'elle fût, n'amena le sourire sur aucun visage.
Ostrodoumov seul fit remarquer que les jeunes gens capables de s'intéresser à l'esthétique ne valaient pas qu'on les plaignît. Quand même le grand critique leur ferait perdre le bon sens.
Ah, mais pardon, permettez, s'écria Paklin avec feu.
Il s'échauffait toujours davantage à mesure qu'on l'approuvait moins. La question, pour n'être pas politique, n'en a pas moins une grande importance. À en croire Skoropikine, toute ancienne production artistique est nulle, par cela seule qu'elle est ancienne. Mais en ce cas, l'art n'est pas autre chose que la mode, et il ne vaut pas la peine qu'on en parle sérieusement. S'il n'y a pas dans l'art quelque chose d'invariable, d'éternel, alors que le diable l'emporte. Dans la science, dans les mathématiques, par exemple, regardez-vous Euler, Laplace, Gauss comme de vieux chevaux de réforme? Non, vous reconnaissez leur autorité. Mais pour vous autres, Raphaël et Mozart sont des crétins, et votre orgueil se révolte contre leur autorité, à eux.
Les lois de l'art sont plus difficiles à découvrir que celles de la science, je ne dis pas non, mais elles existent, et celui qui nie leur existence est un aveugle volontaire ou involontaire, peu importe.
Paklin s'arrêta. Tous restaient muets comme s'ils se fussent mordus la langue, ou comme s'ils l'eussent pris en grande pitié.
Seul Ostrodoumov grommela, tout ça n'empêche pas que je n'ai aucun égard pour les jeunes gens qui se laissent abrutir par Skoropikine.
Qu'ils aillent au diable, je me sauve, se dit Paklin. Il était venu chez Nechtanov pour lui faire part de ses idées au sujet de l'introduction en Russie d'exemplaires de l'étoile polaire. La cloche n'existait déjà plus à cette époque. Mais la conversation ayant pris un tour si défavorable, il jugea plus prudent de ne pas soulever cette question. Il prenait déjà son chapeau, quand, tout à coup, sans qu'aucun bruit préalable eût averti nos jeunes gens, une voix se fit entendre dans l'antichambre. « Monsieur Nechtanov est-il chez lui ?» C'était une voix de baryton très agréable et étoffée, dont le timbre éveillait dans l'esprit des idées de suprême distinction, d'élégance parfaite, voire même de parfums exquis. Les jeunes gens s'entre-regardèrent avec stupeur. « Monsieur Nechtanov est-il chez lui ?» répéta la voix.
« Oui, » répondit enfin Nechtanov.
La porte s'ouvrit discrètement, d'un mouvement égal et souple, et sur le seuil apparut un homme d'environ 40 ans, grand de taille, bien fait, presque majestueux, qui, ôtant sans précipitation son chapeau admirablement lustré, découvrit une belle tête aux cheveux coupés ras.
vêtu d'un superbe paletot de drap anglais, dont le collet, quoique Avril touchât à sa fin, était gardé d'une riche fourrure de castor, le visiteur frappa tout le monde, Nejdanov, Paklin, Machourina elle-même, mieux que cela, Ostrodoumov, par la noble assurance de son allure et l'aimable sérénité de son abord. Involontairement, tous se levèrent en le voyant paraître.